Emmanuel Macron écrit aux partenaires calédoniens. Il précise l'objectif et le cadre du sommet qu'il présidera à Paris à partir du 2 juillet. Incendie depuis hier soir sur le site d'enfouissement de déchets de Pointe-Boute. Il est sous contrôle, mais les pompiers s'activent pour l'éteindre avant un éventuel renforcement du vent. 4000 lanternes pour illuminer la ville de Nouméa. Elle fête ses 171 ans ce soir sur le terrain municipal de Magenta. 12 jours de guerre et un cessez-le-feu. Les armes se sont tues entre Israël et l'Iran, mais la situation reste fragile. En métropole, le Parti socialiste dépose une motion de censure contre le gouvernement. C'est la conséquence de l'échec du conclave sur les retraites. Et puis coup de tonnerre dans le monde du football. Le gendarme financier de la Ligue prononce la rétrogradation de l'Olympique Lyonnais en deuxième division. Le club peut encore faire appel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Ça y est, c'est officiel. Les invitations ont été lancées par Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la Nouvelle-Calédonie à partir du 2 juillet. Et les discussions dureront le temps nécessaire, Elisabeth Noir.
Le chef de l'État avait annoncé le 28 mai qu'il reprenait la main sur le dossier calédonien. Il l'avait confirmé le 10 juin à Nice lors du sommet France-Pacifique. Mais depuis, on attendait la concrétisation de cette réunion. C'est fait. Hier, le président de la République a invité l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Calédonie à un sommet à partir du 2 juillet dans l'espoir de sortir le territoire de l'impasse un an après les violences insurrectionnelles de mai 2024. Dans le courrier d'invitation qu'il a envoyé, Emmanuel Macron rappelle que le processus issu de l'accord de Nouméa prévoyait l'organisation de 3 consultations et une fois celle-ci réalisée, que les partenaires de l'accord se réuniraient pour examiner la situation ainsi créée. Le chef de l'État estime aussi qu'après la crise débutée le 13 mai 2024, la tension était trop forte pour permettre un dialogue apaisé entre toutes les composantes de la société calédonienne. Il relève que le ministre d'État a réussi à renouer les fils du dialogue, ce qui est un acquis en tant que tel. Toutefois, ajoute Emmanuel Macron, ces échanges dits de Deva n'ont pas permis de parvenir à un accord sur l'avenir institutionnel du territoire. C'est pourquoi, écrit-il, j'ai décidé de l'organisation sous ma présidence d'un sommet consacré à la Nouvelle-Calédonie et associant l'ensemble des acteurs du territoire. Au-delà des sujets institutionnels qui sont majeurs, je souhaite, indique Emmanuel Macron, que nos échanges puissent également porter sur les enjeux économiques et sociétaux. C'est à ce travail que je vous invite à participer avec le ministre d'État à partir du 2 juillet. Nos échanges dureront le temps nécessaire à ce que les sujets lourds que nous aurons à aborder puissent l'être avec tout le sérieux qu'ils méritent. Fin de citation de ce courrier adressé par Emmanuel Macron aux parties prenantes au dossier calédonien.
Emmanuel Macron invite donc l'ensemble des acteurs de Nouvelle-Calédonie, mais on ne sait pas encore, Elisabeth, qui sera autour de la table.
Alors, il y aura les représentants des groupes politiques qui ont participé aux discussions sur l'avenir institutionnel avec Manuel Valls. Ça, c'est une certitude. Mais au-delà des sujets institutionnels que le président de la République considère comme majeurs, les échanges porteront également, écrit-il, sur les enjeux économiques et sociétaux. On sait que les maires calédoniens sont invités. Ce devrait aussi être le cas des représentants économiques et sociaux, mais pour l'instant, les responsables des chambres consulaires nous disent ne pas avoir été destinataires de cette invitation. Autre incertitude, on ne sait pas où se déroulera ce sommet. Il est convoqué à Paris, mais on ne sait pas si ce sera à l'Élysée, à Matignon ou au ministère des Outre-mer. Et puis, autre inconnue, la durée de ce sommet. Emmanuel Macron écrit que les discussions dureront le temps nécessaire à ce que les sujets lourds que nous aurons à aborder puissent l'être avec tout le sérieux qu'ils méritent. Étant donné la situation, les enjeux et la nature des problèmes à régler, c'est un peu flou. Il faut traiter les questions d'avenir institutionnel, mais aussi celles des élections provinciales et donc du corps électoral, et également les questions de la relance économique, de la reconstruction, et bien sûr de la relance de la filière nickel, sans oublier les problèmes de société, un ordre du jour particulièrement chargé, donc, et des sujets très lourds. Et à l'heure actuelle, personne n'a d'indication sur la durée qui sera nécessaire pour évoquer et traiter tous ces problèmes. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ce sommet se déroulera sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui sans doute ouvrira les travaux, mais qu'il se tiendra aussi en présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Et on rappelle que le chef de l'État avait déclaré à Nice vouloir un projet nouveau pour la Nouvelle-Calédonie, tout en promettant de ne pas refaire les erreurs liées au référendum qui, selon lui, ne sont pas adaptées aux cultures océaniennes.
Plusieurs réactions en Calédonie après cette invitation à ce sommet. Sonia Baquès rappelle que la proposition de Manuel Valls et l'échec de Deva avaient accentué le désespoir des Calédoniens et aggravé la situation économique et sociale. Et elle dit croire pour sa part dans la construction d'un nouveau projet initié par le président de la République.
Très heureuse que le président ait confirmé cette invitation malgré le conflit au Moyen-Orient. C'est la preuve de l'intérêt qu'il porte à la Nouvelle-Calédonie. Très heureuse également que ce soit lui-même qui préside ce sommet parce que, Après, la proposition de Manuel Valls et l'échec des discussions de DEVA, il y avait quand même une forme de désespoir de la part de la population et un ralentissement économique, un aggravement de la situation sociale. Donc je pense que c'est quand même de nature à redonner espoir. On verra ce qui sort de ce sommet. Nous, on ira et on participera évidemment à toutes les séquences auxquelles on sera invité avec la volonté de chercher des solutions de sortie qui redonnent des perspectives et de la visibilité aux Calédoniens.
Le député Nicolas Metzorf s'est immédiatement réjoui dans un communiqué de cette confirmation de la tenue de ce sommet à Paris à l'initiative du président de la République. Il se dit prêt à travailler pour s'assurer d'une nouvelle Calédonie dans la République française. Nous lui avons demandé ce qu'il attendait de ce sommet.
On trouve la solution définitive pour la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'on puisse trouver un accord. Je crois que c'est ça que tout le monde attend. C'est ça qu'on recherche depuis maintenant la fin du troisième référendum. Il date quand même de 2021, donc ça fait 4 ans qu'on est en négociation avec des interlocuteurs divers. Là, cette fois, c'est directement le président de la République lui-même. Donc, je pense que là, c'est le meilleur moyen d'aboutir.
Il dit que ça durera le temps nécessaire. À votre avis, combien de temps est-ce qu'il va pouvoir consacrer à la Calédonie?
Je crois que c'est la plus grande désinformation de ce courrier. Ça veut dire qu'en fait, on va discuter jusqu'à temps qu'on arrive à trouver un compromis, qu'on arrive à se mettre d'accord. Je pense qu'il ne met pas de deadline, comme on dit, pour pouvoir justement laisser le temps de la négociation le plus longtemps possible.
Le ministre des Outre-mer sera bien sûr présent à cette réunion.
Écoutez, il est présent, mais je note que le courrier est signé du président de la République et qu'il indique que le sommet sera sous sa présidence, qui a vocation à un petit peu nous rassurer par rapport au conclave de DEVA où on avait effectivement l'impression que le ministre était un petit peu en solo sur son projet. Là, cette fois, le président de la République a parlé d'un projet nouveau sous sa présidence. Donc, on a hâte de voir de quoi il en retourne.
Calédonie Ensemble estime que ce sommet part sur de bonnes bases avec l'implication du président de la République aussi longtemps que nécessaire. Philippe Dunoyer attend beaucoup de ce qu'il qualifie de sommet de la dernière chance.
Ce qu'on doit réussir à l'occasion de ce sommet, je dirais de la dernière chance, c'est de parvenir à se mettre d'accord entre formations politiques sur un processus ou un projet d'avenir institutionnel. C'est la nécessité que la réalité économique, sociale et sanitaire nous rappelle tous les jours. C'est le dernier moment où on peut le faire, parce qu'après il faudra faire des élections provinciales en novembre et que le pays en attendant en plongera. Donc moi j'espère beaucoup de ce sommet. Le président prend le dossier en main, en tout cas organise ce sommet. Il a mentionné évidemment que le ministre des Outre-mer serait présent également, mais c'est un investissement personnel au plus haut niveau. Donc c'est aussi une autre raison de baptiser ce sommet celui de la dernière chance.
Les maires participeront également à ce sommet et l'Association française des maires sera représentée par 3 de ses membres, dont le président Pascal Vittori.
C'est une demande de longue date de l'Association française des maires que de participer aux discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons fait un gros travail depuis plusieurs mandatures déjà. Plusieurs présidents de l'Association française des maires avaient donc réuni les maires pour travailler sur le sujet des compétences et du financement des communes. Nous sommes prêts, nous avons transmis donc nos demandes à l'État depuis le mois de décembre déjà. Et jusqu'à présent, donc nous avions été entendus par le ministre Valls à 2 reprises au commissariat. Il avait invité l'ensemble des maires de Nouvelle-Calédonie. Mais on n'avait pas été invité jusqu'à présent officiellement aux discussions. Donc c'est chose faite aujourd'hui et on ne peut que s'en réjouir. C'est important pour nous que ce soit le président qui préside ce sommet. Ça montre l'importance qui est accordée à ce dossier et l'importance qui est accordée aux demandes des maires de Nouvelle-Calédonie.
On sait aussi que le FLNKLS doit acter officiellement sa participation à ce sommet samedi lors d'une convention réunie à Dumbéa, mais a priori la coalition indépendantiste devrait y participer. Le Rassemblement national sera-t-il associé à ce sommet? C'est la question que nous avons posée à son délégué territorial Alain Descombelles. Il était notre invité ce matin à 7h30.
Nous sommes en discussion avec son cabinet et le cabinet de Marine Le Pen pour que Marine Le Pen puisse participer.
Elle nous avait annoncé ici qu'elle devait écrire au président de la République pour être associée aux discussions. Ça a été fait. Elle a une réponse, pas encore vraiment.
Pour l'instant, ils sont en cours de discussion, tout en sachant que après, ça va dépendre de la formule qu'il souhaitera pour l'intégrer à ces discussions. Elle souhaite effectivement que le Rassemblement national, qui sera d'ailleurs dans une position très importante, puisque au niveau justement de l'Assemblée nationale, ils sont quand même 145 députés. Mardi, il y a une motion de censure. Je pense que ça peut aussi être un avertissement pour le président Macron de savoir que sans l'Assemblée nationale, il peut se passer un certain nombre de choses. Et puis, bien entendu, il y aura d'autres périodes d'autant plus difficiles pour le gouvernement actuel. Ce sera notamment à l'occasion du budget. Et je pense que ce sera peut-être reculé pour mieux sauter.
Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet convoqué à Paris? Vous pensez qu'une solution peut être retrouvée pour la Nouvelle-Calédonie?
Très sincèrement, je ne le pense pas, puisque je vois pas pourquoi ce qui n'a pas pu se faire ici va d'un coup trouver la lumière, va jaillir. Parce que bien sûr, les positions sont tellement opposées que je vois pas bien comment on peut trouver une solution apaisée, parce qu'on va vous enfermer pendant une semaine ou trois jours dans un endroit. Donc je pense qu'on va certainement après vers des propositions qui amèneront un décalage dans le temps, c'est une certitude.
Et vous pouvez réécouter ou visionner cette interview d'Alain Descombelles en podcast sur notre site internet.
À Radio Rythme Bleu, 11h41.
Toujours dans l'actualité politique, une réunion publique ce soir à l'initiative des partisans de la France. Elle est organisée conjointement par les loyalistes et le Rassemblement et se tiendra à partir de 18h à l'Arène du Sud à Païta, en présence des responsables politiques des différents mouvements. Ce sera l'occasion de faire le point sur le bilan du conclave de Deva et de la tournée à Paris, ainsi que sur les prochaines échéances et notamment sur ce sommet organisé par le président de la République à partir du 2 juillet dont on vient de parler. Cette réunion publique est ouverte à tous et pour les personnes qui n'ont pas de moyens de transport pour se rendre à l'Arène du Sud. Un système de navettes est mis en place au départ de l'hippodrome de Nouméa, du monument américain de la baie de la Moselle ou de la piscine de Coutiot. Le nombre de places dans ces navettes étant limité, les personnes intéressés doivent s'inscrire en téléphonant au 77 24 17, le 77 24 17, ou alors le 94 12 31, le 94 12 31. Toujours en bref, l'actualité institutionnelle avec cette nouvelle séance publique pour les élus du Congrès à partir de 13h30. Ils se retrouvent pour l'examen de deux projets de loi du pays. Le premier porte sur la représentativité patronale. Le second concerne un certain nombre de mesures dans le cadre du plan de sauvegarde économique et de reconstruction. Et puis le Conseil municipal du Mont-d'Or se réunit, lui, à 17h ce soir. 13 points figurent à l'ordre du jour. Les élus devront notamment étudier le compte administratif 2024 de la commune, puis son budget supplémentaire. Les autres délibérations concernent principalement l'attribution de subventions à des associations. On va tourner une première page de publicité dans ce journal avant de se retrouver pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie. On fera notamment le point sur cet incendie qui s'est déclenché sur le centre d'enfouissement de déchets à Pointe-Boutte hier soir.
Toute l'info en trois lettres, RRB. La ville de Nouméa fête son anniversaire ce mercredi 25 juin à partir de 16h sur le terrain municipal de Magenta. Au programme, des animations seront proposées de 16h à 20h avec un spectacle de magie à 16h30 et la distribution des lanternes commencera à 19h pour un envol à 20h. Stands de restauration et manèges pour vos enfants seront également de la partie. Plus d'infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville. Venez savourer ce moment de festivité.
Ville de Nouméa, partageons l'événement. Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical, dès 3 ans, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie est l'incendie du centre d'enfouissement des déchets à Pointe-Boutte qui s'est déclenché hier soir et sous contrôle, Léo Fichou.
Oui, quelques petites flammes persistent et un important nuage de fumée se dégage de la butte de déchets, mais les pompiers et la direction du CIVOM VKP sont confiants. Le feu est effectivement sous contrôle depuis hier soir et le départ de l'incendie, donc, qui, je le rappelle, est probablement intentionnel. Les soldats du feu sont mobilisés sur place. Ce matin, ils ont reçu le soutien d'un engin de terrassement, nous a expliqué Arnaud Banfi, directeur du CIVOM VKP.
L'équipe de pompiers qui a pris la relève est arrivée sur place avec un engin de notre sous-traitant pour travailler ensemble. Il y a presque plus de flammes. On est surtout sur le traitement des fumées là pour éviter d'incommoder les personnes aux alentours. Du coup, l'objectif, c'est de pouvoir étouffer le feu, de noyer le feu en profondeur. Donc du coup, l'engin de travaux publics va creuser dans le massif de déchets pour bien mettre à nu les zones encore brûlantes et les pompiers vont arroser en même temps pour essayer de le noyer à l'eau et avec de l'émulseur aussi pour essayer vraiment d'étouffer au maximum le feu et de diminuer les fumées. Le seul point de vigilance, c'est le vent. Pour l'instant, c'est un vent de terre qui est pas trop fort. Mais si le vent se renforçait ou s'il tournait, ça pourrait compliquer un petit peu l'intervention. C'est pour ça qu'on essaye de travailler rapidement ce matin avant que le vent se renforce.
Le CIVOM invite la population à proximité du centre d'enfouissement des déchets à fermer portes et fenêtres pour éviter de respirer les fumées. Une plainte va être déposée par la direction du CIVOM VKP.
Et puis à Nouméa, 6 jours après l'incendie des docks Biscochoc à Ducos, les pompiers sont toujours mobilisés sur place. Il n'y a plus aucun risque de propagation, mais il reste tout de même des points chauds sous les décombres. Depuis lundi, une société de déblaiement est sur place pour nettoyer les 3000 mètres carrés incendiés. Dans l'attente de pouvoir intervenir, les soldats du feu continuent d'effectuer des rondes et de surveiller le site. Tous donneurs, tous receveurs, parlons-en. C'est le slogan de la campagne d'information qui est lancée tous les 22 juin à l'occasion de la Journée nationale du don d'organes et des tissus. Une matinée d'échange avec des associations spécialisées et des professionnels est organisée aujourd'hui au Médipôle. Charlotte Coulson.
L'insuffisance rénale est une maladie qui touche de nombreux Calédoniens. Environ 800 personnes en sont au stade terminal sur le territoire, soit 3 fois plus qu'en France. Et pour les personnes concernées, la dialyse et la greffe sont bien souvent les seules solutions. La greffe de rein est réalisée en Calédonie depuis 2019. Avant cela, les patients étaient envoyés en Australie. Il est possible de recevoir un don d'un donneur vivant ou décédé. Et dans ce dernier cas, l'attente peut parfois être longue. Pour les Calédoniens, il est possible d'agir simplement en communiquant son souhait de son vivant, comme l'explique Dr Tiphaine Roger, néphrologue au CHT.
Si on part sur un projet donneur décédé, dans ces cas-là, on est inscrit sur une liste d'attente. Il semblerait que les temps d'attente soient plus longs en Calédonie que par rapport à la métropole, et ceci est lié au fait qu'il y a plus d'insuffisants rénaux en Calédonie proportionnellement à la métropole. Alors oui, effectivement, tant qu'on n'est pas inscrit sur le registre de refus, on est théoriquement un donneur d'organes. En pratique, ça ne se fait pas tout à fait de cette manière, parce qu'on va toujours interroger les familles pour être sûr qu'il n'y ait pas de refus de la personne de son vivant, et puis aussi on ne va pas à l'encontre d'une décision familiale. Donc oui, en tant que citoyen, c'est toujours bien de formuler son désir d'être potentiellement un donneur. Plus l'idée de la greffe sera banalisée, plus ça sera facile aussi pour les patients qui sont malades de parler de leur maladie et de demander une greffe aux gens de leur entourage, qui est toujours un moment difficile pour les gens malades.
Et entre la dialyse ou la greffe de rein, il y a peu de débats. La majorité des patients greffés s'accordent à dire que l'opération a changé leur vie. C'est le cas de Charles, déclaré insuffisant rénal en 2018. Et après 2 ans de dialyse, il a finalement pu être greffé au Médipôle. Il est aujourd'hui membre de l'association des insuffisants rénaux et transplantés.
C'est mon frère qui m'a donné. J'ai été malade et il s'est proposé de me donner un rein.
Est-ce que ça a changé pour vous cette greffe?
On revit, hein, parce que tous les 2 jours il fallait faire la dialyse. On peut rien programmer, on peut rien faire. On est obligé de rester pas loin du centre de dialyse. Oui, j'ai de la reconnaissance. Et puis, pour moi, le remercier, c'est bien prendre mes médicaments là, pour éviter le rejet, parce que c'est quelque chose de fort de donner un organe. On essaye de faire passer le message que de son vivant, il faut en parler peut-être avec son frère, sa sœur, d'un parent proche. Dire si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je voudrais faire don d'un organe.
Et depuis 2013, 145 patients ont été greffés d'un rein en Nouvelle-Calédonie. Pour les équipes hospitalières et les associations spécialisées, le message est clair, qu'importe son choix, il faut en parler. Les stands d'information restent au Médipôle jusque 15h aujourd'hui.
4000 lanternes pour illuminer le ciel de Nouméa. La ville célèbre en effet ce soir son anniversaire. Ça se passera sur le terrain municipal de Magenta. Pour ses 171 ans, les lanternes célestes seront distribuées à partir de 19h, mais les festivités débuteront dès 16h avec de nombreuses animations gratuites, spectacles de magie, châteaux gonflables, ateliers pour enfants et bien plus encore. Un moment festif à partager en famille ou entre amis, explique Aurélie Auduro, chef de projet animation et rayonnement de la ville de Nouméa.
On ouvre au public à 16h, ce qui est à l'espace vert de Magenta, en face du stade. Du coup, à 16h, avec des animations pour les enfants. Donc, on aura des manèges gratuits, châteaux gonflables, maquillage pour enfants. On aura également un spectacle de magie qui est prévu à 16h30. Et ensuite, ça sera suivi de déambulations de marionnettes géantes. Tout ça en attente de la distribution des lanternes volantes à 19h pour un lâcher de lanternes à 20h. Donc, beaucoup d'animations pour les enfants en fin d'après-midi. En plus du coup des animations, il y a également de la restauration sur place pour les personnes pour profiter de la soirée un maximum.
Un anniversaire de la ville de Nouméa qui débutera donc à partir de 16h à Magenta et le lâcher de lanterne est prévu lui à 20h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Trouvez-vous utile de développer un service de type Uber en Nouvelle-Calédonie? Si vous trouvez que c'est utile, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'est pas utile, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier. 81% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'entreprise Biscochoc était directement visée dans l'incendie de son dock. Ils sont 19% à penser à l'inverse que c'est un acte de délinquance ordinaire. La poursuite dans la région du 23e sommet du groupe Fer de Lance mélanésien à Suva. Les dirigeants politiques du groupe sont réunis sur le thème « Une Mélanésie prospère et pacifique ». Et ce sommet a été marqué par une passation de pouvoir. Jean-Pierre Zajac.
La réunion a débuté avec une passation du pouvoir de président entre le premier ministre de Vanuatu, Jotham Napat, et son homologue fidjien, Sitiveni Rambuka. Celui-ci a profité de la cérémonie pour déclarer que, je le cite, « ce sommet a renforcé nos valeurs partagées de souveraineté, de solidarité et de développement. Nous nous attaquons ensemble aux problèmes critiques, a-t-il poursuivi, de la sécurité régionale à la coopération économique, de la résilience climatique à la préservation culturelle. » Des défis subsistent, a-t-il conclu, mais ce qui me donne de l'espoir, c'est la clarté de notre vision et l'unité de notre but. Jotham Napat a évoqué quant à lui l'héritage de fierté et d'unité culturelle qui caractérise le fer de lance. Ce à quoi nous venons d'assister n'est pas simplement une passation de pouvoir, a-t-il dit. C'est la transmission d'une flamme sacrée, allumée par nos ancêtres, portée par nos dirigeants et alimentée par les espoirs de notre peuple, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h52, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment un cessez-le-feu en vigueur depuis la nuit dernière entre Israël et l'Iran.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Nous avons obtenu une victoire historique. Déclaration de Benjamin Netanyahou quelques heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui met fin aux opérations militaires entre l'Iran et Israël. Un accord négocié avec le président américain qui a mis tout son poids dans la balance. Le cessez-le-feu est maintenant effectif, mais il a été violé par les deux pays au moment de son entrée en vigueur, qui ont continué d'échanger des échanges de tirs de missiles quelques heures après le début, ce qui a visiblement agacé le président américain.
Vous savez, quand je dis d'accord, vous avez 12 heures, vous ne pouvez pas sortir dès la première heure et larguer toutes les bombes que vous avez. Nous avons essentiellement deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent.
Les armes se sont désormais tues entre les deux pays. Ces 12 jours de guerre ont causé la mort de 28 personnes en Israël. Le régime de Téhéran annonce, lui, 600 victimes dans son pays et 4600 blessés. Donald Trump, que l'on vient d'entendre, a fait sa déclaration alors qu'il s'envolait pour La Haye, où se tient un sommet de l'OTAN pendant deux jours. Le président américain qui va défendre sa position et demander aux pays membres de l'OTAN de consacrer au moins 5% de leur PIB à la question de la défense. L'actualité à l'étranger, c'est aussi le procès en appel de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien est incarcéré à Alger depuis un peu plus de 7 mois maintenant. Il a été condamné en première instance à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Il a donc été jugé en appel lors d'une audience qui a duré moins d'un quart d'heure. Le ministère public a requis cette fois-ci 10 ans de prison. Écoutez la présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, Noël Lenoir.
10 ans, ce qui veut dire en réalité
pour un monsieur qui a 80 ans, qui est affaibli par un cancer dont il est atteint, la peine de mort en prison. Les charges qui sont montées contre lui sont totalement fantaisistes et nient absolument tous les principes juridiques dont se réclame l'Algérie. Il sera certainement condamné, on ne sait pas à combien. Donc ce que l'on souhaite effectivement, c'est que le président algérien se rende compte qu'en réalité, il faut se débarrasser de ce cas et que ça ne glorifie pas le pays et que ça le met en difficulté.
Lors de cette courte audience, l'écrivain est, semble-t-il, apparu en bonne forme. La constitution algérienne décrète la liberté d'expression et on fait un procès pour de la littérature, a-t-il notamment déclaré. En métropole, ce n'est pas vraiment une surprise, mais aucun accord réel n'est ressorti du conclave sur les retraites. Le Premier ministre a entrepris de recevoir tour à tour chacun des partenaires sociaux engagés dans ces discussions. François Bayrou est donc de nouveau mis sur la sellette, notamment par l'opposition de gauche. Le Parti socialiste est passé à l'offensive et a déposé une motion de censure. Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Le Parti socialiste décide de sortir de sa neutralité et annonce déposer une motion de censure contre François Bayrou. Les écologistes, communistes et insoumis seront eux aussi signataires. Ça représente déjà 200 députés sur les 289 nécessaires. Écoutez la justification du député socialiste Arthur Delaporte.
Le Premier ministre a pris un engagement devant l'Assemblée nationale de revenir devant elle. Il ne le tient pas. Il ne souhaite pas que nous puissions débattre de tous les paramètres de la réforme des retraites. Dont acte, il a trahi sa parole et nous le censurons.
Pour éviter d'en arriver là, François Bayrou espère toujours obtenir un accord des partenaires sociaux. Mais cela ne suffira pas, c'est trop tard, assure le Parti socialiste. C'est donc Marine Le Pen qui aura le destin du Premier ministre entre ses mains. Ses 140 députés suffisent à renverser François Bayrou. Mais pour l'instant, selon les informations d'Europe 1, le Rassemblement National ne devrait pas voter la motion de censure, préférant laisser passer l'été pour revenir en position de force à la rentrée lors des négociations sur le budget.
L'actualité politique en métropole, c'est aussi cette question posée par le groupe UDR, présidé par Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. Quel est le coût de l'immigration pour les contribuables français ? Et comme il n'y a pas de réponse claire, il réclame la création d'une commission d'enquête parlementaire sur un sujet hautement sensible. Explication d'Arthur Delaborde.
Objectif affiché, évaluer avec précision les dépenses publiques liées à l'immigration. Accueil, hébergement, santé, aide sociale, le groupe UDR d'Éric Ciotti veut y voir clair et souhaite que l'Assemblée établisse des chiffres sur ce qu'il considère comme un angle mort du débat national. Une démarche qui intervient alors que les études sur le sujet se contredisent frontalement. Pour Terra Nova, think tank progressiste, l'immigration est non seulement utile mais indispensable pour pallier le vieillissement de la population et les pénuries dans certains secteurs. A l'inverse, une note récente de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie dénonce un impact négatif sur la croissance. Faible taux d'emploi, moindre productivité, pression budgétaire. Résultat, l'immigration ne financerait que 86% de ce qu'elle coûte à l'État et représenterait une perte de 3,4% de PIB pour la France. Dans ce contexte de bataille d'expertise, les députés UDR entendent donc avec cette commission remettre les faits au centre du débat. Si leur demande est validée à l'Assemblée, les premières auditions pourraient débuter dès le mois de juillet.
Il est 11h58, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et ce coup de tonnerre dans le monde du football, l'Olympique Lyonnais rétrogradé en deuxième division.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
Info Mingue, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
C'est une décision qui fait l'effet d'une bombe dans le monde du ballon rond. L'Olympique Lyonnais, 7 titres de champion de France, 5 Coupes de France entre autres, relégué en deuxième division. La décision a été prise par le gendarme financier de la Ligue de football. Le club va évidemment faire appel. Explication de Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Le mythique club lyonnais est rétrogradé en Ligue 2. C'est un véritable coup de tonnerre quand on pense à tous ces joueurs qui sont passés par l'Olympique lyonnais. Karim Benzema, Sonny Anderson, Hugo Loris, Nestor Combin, Floridine Allo, bien sûr Bernard Lacombe, dont les obsèques seront célébrées demain. On pense ce soir aussi à Jean-Michel Aulas qui vient de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je cite, c'est un choc, un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l'Olympique lyonnais. Pendant 36 ans, j'ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. Il dit qu'il restera bien sûr vigilant. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien, le propriétaire actuel, l'américain John Textor, s'est démené pour équilibrer les comptes. Départ d'une centaine de salariés, de nombreux joueurs clés comme Alexandre Lacazette, le gardien Anthony Lopez n'a pas été non plus conservé. La pépite Rayan Cherki a été vendue à Manchester City pour 40 millions d'euros, mais cela n'a pas suffi à convaincre le gendarme financier. Et du coup, bien Lyon, qui a terminé 6e de Ligue 1, va devoir faire appel auprès de la Fédération française de football en espérant que cet appel lui permette de rester en Ligue 1. Si cette rétrogradation administrative est confirmée, elle pourrait faire un euro. Le Stade de Reims, relégué récemment en Ligue 2, et qui pourrait remplacer Lyon dans l'élite du foot français. En tout cas, Lyon n'est pas le seul club mythique en pleine tourmente. Bordeaux, désormais en National 2, l'équivalent de la 4e division, a vu sa masse salariale encadrée par le gendarme financier.
L'actualité du football, c'est aussi ce qu'on peut qualifier d'exploit d'Auckland City ce matin lors de la Coupe du Monde des clubs, Léo Fichou.
Oui, dans un match sans enjeu et après avoir encaissé deux très lourdes défaites, on le rappelle, 10-0 contre le Bayern, 6-0 contre le Benfica Lisbonne, les joueurs d'Auckland se sont lâchés et ont réalisé un véritable exploit, effectivement, il faut le dire. Ils ont tenu en échec un but partout les Argentins de Boca Juniors, menés 1-0 à la pause. Ils ont égalisé en début de seconde période avant que la rencontre ne soit interrompue près d'une heure à cause des mauvaises conditions météo. Après la reprise, pas de changement. Score final, un but partout et les deux équipes, malheureusement, sont éliminées. Dans l'autre rencontre du groupe C, le Benfica Lisbonne a dominé le Bayern Munich 1-0 et termine donc en tête de la poule devant les Allemands. Et puis, depuis quelques minutes, deux matchs se disputent. C'est le groupe D, Espérance Tunis contre Chelsea, Los Angeles FC face à Flamengo. Les Brésiliens sont déjà qualifiés. Pour les autres, tout est encore possible.
Du tennis et la Française Loïs Boisson ne verra pas le tableau principal de Wimbledon.
Un petit tour de qualification et puis s'en va la Française. Sensation de Roland-Garros où elle avait atteint les demi-finales, est éliminée dès le premier tour des qualifications du tournoi londonien. Elle s'est inclinée en 3-7 contre la Canadienne Carson Brandstein. On retrouvera tout de même quatre Françaises au deuxième tour. Diane Paris, Selena Janicijevic, Elsa Jacquemot et Alizé Cornet. Chez les hommes, ils sont neuf, notamment Arthur Cazot, Adrien Manarino et Hugo Blanchet, que l'on a déjà vu sur les cours du Wentoro. C'était lors du Challenger de Nouméa.
Et puis un mot de basket pour vous signaler que l'équipe de France est en demi-finale de l'Euro féminin. En quart de finale cette nuit, les Bleus ont largement dominé la Lituanie, 83-61. En demi-finale, les joueuses de l'équipe de France affronteront soit l'Espagne, soit la République tchèque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Infomag se poursuit jusqu'à 13h avec Thierry. 13h, ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.